Savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Savoir Plus, le magazine consacré à l'actualité départementale et régionale. Cette semaine, de nouveaux sujets. Donc d'une part, la mise en place d'un guichet unique de l'habitat dans la région des Hauts-de-France dès l'an prochain. Et d'autre part, nous allons revenir sur la soirée de l'innovation qui s'est déroulée le 27 juin dernier à Béthune, à la Fabrique, nouveau lieu d'expérimentation et d'innovation, notamment dans le domaine du numérique.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Peut-être envisagez-vous de rénover votre logement pour gagner en efficacité énergétique, autrement dit de ne plus avoir besoin de chauffer à fond votre habitat en hiver et utiliser moins de climatisation l'été par exemple. Et sans doute avez-vous tenté de vous renseigner sur des financements, des aides pour effectuer votre isolation. Des démarches parfois compliquées avec un grand nombre d'acteurs à solliciter. La région veut simplement simplifier tout cela en mettant en place un guichet unique de l'habitat dès l'an prochain et elle lance pour cela auprès notamment des collectivités locales un appel à projet pour créer des guichets uniques. Ces guichets uniques qui peuvent s'avérer rassurants également pour les habitants à l'heure où fleurissent sur internet de nombreuses arnaques concernant l'isolation à 1 euro. Nous avons interviewé Frédéric Nius, conseiller régional Les Républicains, en charge de ce dossier à la région des Hauts-de-France. Frédéric Nius, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller régional des Hauts-de-France Les Républicains, membre de la commission chargée de l'aménagement du territoire et de la transition énergétique. Merci d'être avec nous sur Radio Plus. Alors la région Hauts-de-France lance un appel à projet pour mettre en place des guichets uniques de l'habitat dans la région. Pour quelles raisons ?
Il faut souligner que c'est une première en France. Hein. On est les premiers à faire ça. L'objectif, il est tout simple. C'est qu'on s'est rendu compte dans la mise en place de nos dispositifs d'aide régionale à la rénovation énergétique des logements qu'on se retrouvait dans un vrai maquis administratif et qu'il était très compliqué pour les ayants droit, pour les particuliers, de s'y retrouver entre les dispositifs de telle collectivité, de telle autre, entre la région, les départements, les intercommunalités, les mairies, les associations, etc. Que c'était particulièrement compliqué de monter un dossier pour réunir toutes ces aides possibles, hein, y compris les aides de l'État, par exemple de l'ANA. Mmh. Donc on a décidé de donner un coup de main et de faciliter la vie des gens en mettant en place le guichet unique de l'habitat.
Voilà, je précise au passage que l'ANA, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Tout à fait.
Alors, combien de guichets uniques pourraient ainsi voir le jour ? Est-ce que ce sera un guichet par communauté d'agglomération, par exemple ?
Ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette au niveau de la région. Donc on lance cet appel à projet cet été, de façon à ce que l'ensemble des territoires puissent répondre. Alors comme je vous le disais, c'est une première en France, on lance les choses ici sur les trois prochaines années, de façon à ce que, grosso modo, la centaine d'intercommunalités puissent répondre. On souhaite travailler avec les intercommunalités pour une raison toute simple, c'est que c'est ce qui permet de couvrir au mieux le territoire et l'ensemble des communes et autres sur les cinq départements de la région. Donc voilà, là on lance l'appel à projet, c'est sur base du volontariat bien évidemment, on souhaite se baser non pas sur un système vertical où la région irait dire dans les territoires ou les intercommunalités voilà ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, on sait que chacun peut avoir des habitudes de travail, un acquis, des expériences, il y a déjà des choses qui fonctionnent bien dans certains territoires, donc au territoire de jouer, de nous faire leur offre par rapport à ce qu'ils semblent le mieux pour leur territoire et nous on s'adaptera par rapport à ça, on les accompagnera par rapport à ça.
Alors vous avez évoqué il y a quelques instants la complexité des démarches à effectuer en cas de rénovation énergétique. Alors justement, qui seront les conseillers qui travailleront dans ces guichets uniques ? Est-ce qu'il va s'agir de nouveaux postes ?
On va pas raisonner en termes de poste, on attend de voir ce que vont nous proposer justement les territoires hein, par rapport à ça. Est-ce que ça sera des agents de leur intercommunalité? Est-ce que ça sera aussi les agents des espaces info et énergie qui, à terme, ont vocation, bien évidemment, à s'intégrer dans cette démarche? Voilà, ça, on va pas faire les réponses avant d'avoir reçu les propositions. Hein, nous, l'idée, c'est qu'on raisonne pas en termes de recrutement, on raisonne en termes d'efficacité. Donc, au territoire de nous dire la structuration qu'ils estiment la meilleure pour répondre au mieux aux attentes de la population et des habitants, et puis on se calera par rapport à ça. Donc là, on va voir. L'appel à projet ici va démarrer là incessamment sous peu. Réponse à la rentrée, en septembre-octobre, de façon à ce qu'on puisse mettre en place tout ça concrètement et de façon opérationnelle début 2020.
Alors Frédéric Nioux, ce nombre de publicités fleurissent actuellement sur Internet et sur les smartphones concernant l'isolation à 1 euro. Il existe aussi beaucoup de démarchages téléphoniques sur ce sujet. Or, la plupart du temps, ce sont des arnaques que certaines sociétés peu scrupuleuses, utilisent pour bénéficier des certificats d'économie d'énergie qui sont censés financer les travaux. Et ces sociétés en question effectuent soit des travaux bâclés, soit aucun travaux. Est-ce que justement ces guichets uniques que vous proposez peuvent permettre de lutter plus efficacement contre ces arnaques?
Oui, bien sûr. Là, on est un peu dans le domaine du « demain, on rase gratis hein. ». Et moi, j'attire l'attention véritablement de tous vos auditeurs. Faites attention à ces démarchages. Hein. On sait que certains se revendiquent du soutien de telle ou telle collectivité ou autre. Il faut faire particulièrement attention à ces démarchages. Aller voir son artisan ou sa PME du secteur, ça sera déjà une avancée. Et nous, effectivement, l'idée du guichet unique, hein, c'est vraiment d'accueillir les gens, de les informer, donc y compris sur ces dérives ou on peut parler d'arnaque hein, pour certains, et vraiment de les orienter avec un vrai conseil de façon à ce que d'un côté ils se fassent pas arnaquer et de l'autre ils puissent décider des travaux véritablement nécessaires pour la rénovation de leur logement. Hein, c'est vraiment un vrai service, un vrai conseil qu'on va apporter aux gens et gratuitement. Hein, je précise bien, ça sera un service gratuit. On est vraiment dans le domaine du service public.
Alors, je reviens rapidement sur l'appel à projet hein, concernant la mise en place de ces guichets uniques. Alors, vous avez évoqué les intercommunalités pour répondre à cet appel à projet. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres structures qui peuvent y répondre également?
On s'adresse au territoire. Après, c'est au territoire de structurer son offre, si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure. Telle intercommunalité va peut-être répondre sur un dispositif où elle sera l'unique opérateur, telle autre peut intégrer une association, peut intégrer pourquoi pas une unité mobile, parce que guichet unique ça veut pas dire lieu unique, hein, on peut imaginer un guichet unique de l'habitat qui soit mobile, on pense notamment dans les zones rurales. C'est vraiment au territoire de définir son offre hein, et son offre et sa proposition de structuration et de couverture de son territoire. Voilà, alors ça peut être en intégrant d'autres opérateurs, ça peut être en intégrant des CCAS, ça peut être en intégrant de ses propres services administratifs ou des associations, des partenaires classiques avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. On sait qu'il y a des choses qui existent sur le terrain, qui sont spécifiques à chaque territoire, puisqu'on ne va pas avoir la même offre dans l'Avesnois comme à l'autre bout de la Picardie. Hein. Chacun ses spécificités. On veut vraiment coller aux réalités du terrain, aux attentes réelles du terrain et aux potentialités du terrain. Nous, notre démarche de notre côté au niveau de la région, hein, c'est vraiment d'apporter une simplification administrative, une facilitation dans les démarches pour les gens. Alors c'est une première étape, le guichet unique c'est important, je rappelle, c'est une première en France, c'est la première fois que ça se fait, et on espère bien qu'à terme ça aboutira à ce qui était un vieux serpent de mer auparavant, hein, et qui peut améliorer les choses maintenant, c'est le guichet unique Hein, le but, c'est vraiment de faciliter la vie des gens. Il y a trop de passoires thermiques dans notre région. Il faut qu'on avance vraiment dans leur traitement. Et pour ça, il faut guider les gens, il faut les conseiller dans ce maquis administratif, je le répète, puisqu'on est quand même dans un univers qui est quand même particulièrement complexe.
Alors, Frédéric Nius, vous avez évoqué 2020 pour les premiers guichets uniques. Vous avez une idée de la période? Est-ce que ce sera possible dès janvier?
Ah oui, oui, oui. C'est, là, l'appel à projet est lancé ici pour cet été. Réception des offres fin septembre, traitement, évaluation, traitement des dossiers sur la fin de l'année, et puis mise en place à compter de 2020. Donc on est vraiment on est au taquet sur le sujet.
Alors la région va également être la première à mettre en œuvre le programme régional pour l'efficacité énergétique. L'idée directrice de ce programme, c'est donc de réduire la production de gaz à effet de serre en aidant notamment à la rénovation d'un maximum de logements en région. On l'a bien compris. Est-ce que la rénovation des logements est le seul aspect de ce programme ou est-ce qu'il y en a d'autres?
Oh non, il y a beaucoup de sujets. On a vraiment une vraie démarche d'efficacité énergétique au sens général du terme. Donc ça passe effectivement par la rénovation énergétique des logements. Donc on a des dispositifs d'aide directe pour aider les propriétaires modestes, par exemple, qui sont éligibles aux critères de l'ANA, de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. On vient apporter une aide jusqu'à 3000 euros en plus pour faire des travaux, on va dire, de quasi d'urgence. Cette année, on va déployer au cours du deuxième semestre 2019 la régie régionale qui était mise en place en Picardie à titre expérimental et qu'on va étendre au Nord-Pas-de-Calais à compter de la fin de l'année pour accompagner là, quelles que soient les conditions de ressources, de revenus ou de situation des gens, les aider à faire les travaux et à les accompagner techniquement avec des financements particuliers qui permettent de réduire les factures d'énergie. Mais on a aussi, tout ça s'inscrit aussi dans notre mix énergétique qui est de faire des économies d'énergie, donc des économies sur les factures, de baisser la consommation énergétique, d'avoir une utilisation des énergies renouvelables. Voilà, c'est un ensemble de traitements d'énergie pour montrer que la région de France est clairement et volontairement engagé sur le chemin de la transition énergétique.
Alors Frédéric Nius, pour terminer, quel est l'objectif de réduction de gaz à effet de serre que vous souhaitez obtenir au niveau régional? Est-ce que la région a fixé une date butoir, un objectif précis pour cette réduction?
Les objectifs qu'on fixe, ils sont ambitieux au niveau de la région, dans le cadre du mix énergétique qu'on a voté en 2018. C'est de objectif 2030, c'est de doubler la production d'énergie renouvelable sur la région, c'est divisé par deux les productions de les émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment volontaire. On est en train de travailler sur les filières type le développement du solaire, sur le biogaz. On veut être la première région européenne en matière d'injection de biogaz. On veut développer les filières à hydrogène, et c'est pour ça qu'on a par exemple soutenu des solutions de mobilité hydrogène, comme les bus à hydrogène, là ici dans le Pas-de-Calais, qui ont été inaugurés la semaine dernière par le président Xavier Bertrand. Voilà, donc on fait sans jeu de mots un peu feu de tout bois, justement, pour booster les choses et changer les choses au niveau de la région. Les énergies renouvelables, on y croit, et de façon complémentaire au nucléaire, parce que l'un va pas sans l'autre, si on veut continuer à avoir un prix de l'énergie qui soit quand même supportable par les gens.
Mais pas l'éolien.
Sans éolienne. Vous savez, les Hauts-de-France produisent déjà 28% de la production d'électricité éolienne de toute la France. Donc on estime qu'on a notre dose. C'est bon, donc voilà, on est à 28%. Maintenant, il faut booster les autres énergies renouvelables. Après, bon, si certains à Paris font un peu la danse du ventre autour de ces éoliennes qui sont un peu pour eux leur totem, très bien, mais qu'ils les plantent chez eux.
Alors Frédéric Nius, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseiller régional Hauts-de-France, Les Républicains, et que vous faites partie de la commission de l'aménagement du territoire et de la transition énergétique.
J'ai même la délégation de la politique de l'énergie, de la transition énergétique et de la rénovation énergétique des logements à la demande du président Xavier Bertrand.
Eh bien, merci de le préciser en tous les cas, et merci à vous d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci.
Merci à vous.
Ma station, ma région.
Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur cet appel à projet concernant les guichets uniques de l'habitat, rendez-vous sur le site internet de la région Hauts-de-France, le www.hautdefrance.fr. Tout de suite, Daniel Gérard, chanson de circonstance, il pleut dans ma maison.
Portait un drôle de nom, vivait une drôle de fille qui avait une drôle de maison. Avec un drôle de trou au milieu d'un drôle de toit, mais le plus drôle de tout, elle chantait d'une drôle de voix. Ah ah oh oui,
il pleut dans ma maison.
Ah ah oh oui,
il pleut dans ma maison.
Ah ah oh oui,
quand toutes les filles s'en vont, mais quand il fait du soleil, c'est si bon. Mais quand il fait du soleil, c'est si bon.
Cette drôle de fillette fréquentait un drôle de gars qui fit une drôle de tête quand il vit le drôle de toit. Il prit une drôle d'échelle, se donna un drôle de mal, mais glissa sur une tuile et finit à l'hôpital. Ah ah oh oui,
il pleut dans ma maison.
Ah ah oh.
Mais quand il fait du soleil, c'est si bon. Mais quand il fait du soleil, c'est si bon.
Le gars est dans le plâtre et la fille est dans la joie, car elle s'est rendue compte qu'au fond, elle ne l'aimait pas. L'amour à la présent est valable à tous les âges. C'est qu'un inconvénient a parfois ses avantages. Ah ah oh oui,
il pleut dans ma maison.
Oh oui,
il pleut dans ma maison.
Ah ah oh oui,
car toutes les filles s'en vont. Mais quand il fait du soleil, c'est si bon. Mais quand il fait du soleil, c'est si bon.
Ah ah oh oui,
il pleut dans ma maison.
Ah ah oh oui,
il pleut dans ma maison.
Ah ah oh oui,
car toutes les filles s'en vont. Mais quand
Daniel Gérard, à l'instant sur Radio Plus, le jeudi 27 juin dernier, avait lieu à la Fabrique à Béthune la soirée de l'innovation. Une soirée où avait lieu tout d'abord une conférence animée par Marie-Noëline Viguier sur les enjeux concernant l'innovation et les territoires, et où la conférencière a incité les participants à s'approprier les techniques de hacking de manière positive, pour parvenir au changement souhaité, une suggestion qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Le maire de Béthune, Olivier Gacquer, et son équipe ont décidé de mettre en place il y a 3 ans le projet Béthune Smart City, ou comment améliorer le quotidien des habitants en faisant appel au numérique et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est ainsi que 4 projets ont été présentés lors de cette soirée de l'innovation. Olivier Gacquer nous explique tout d'abord ce qu'est Béthune Smart City.
Alors la Smart City, c'est une tactique qui vise à renforcer l'attractivité des villes moyennes, notamment Béthune, à travers la volonté d'innover et puis de tenir compte des enjeux à la fois numériques, des enjeux de transition énergétique.
Alors justement, quels sont les enjeux pour Béthune précisément ?
L'emploi, bien évidemment, de rendre cette ville apaisé, travailler sur son cadre de vie, de renforcer finalement sa visibilité à l'échelle notamment de la région, de son territoire. Et puis finalement éviter de voir la fuite des cerveaux, la fuite de nos jeunes qui, une fois formés, mobiles, sont souvent captés par des grandes capitales économiques ou simplement des capitales nationales. On a 6 capitales moins de 3 heures. Et donc voilà à quoi ça correspond aussi pour nous.
Alors pouvez-vous nous parler des différentes applications qui ont été présentées ce soir ?
Alors ce soir, on vous a présenté 4 projets qui sont d'innovation incubés par la ville pour démontrer d'abord qu'une collectivité peut aussi pousser l'innovation. Et là, en fait, ce sont 4 coups de pouce sur 4 applications ou en tout cas 4 projets. Le premier tourne autour de la donnée. C'est quoi ces fameuses data, cette notion de big data, d'open data ? À quoi sert ces informations qui sont collectées ? Comment on peut la mettre à disposition une fois qu'elles sont anonymisées, ces informations ? Elles sont qualifiées, elles sont donc prêtées à la population, aux acteurs publics pour mieux se connaître, mieux dessiner nos politiques publiques, mieux permettre la création d'entreprises, faire des études de marché, etc. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est lié au patrimoine, à sa découverte, notamment le patrimoine invisible, les caves par exemple, à travers un outil gratuit, permettra aux gens sur smartphone de venir découvrir ce qu'il y a sous leurs pieds et découvrir le patrimoine de Béthunois. Donc c'est aussi un outil pour créer du flux à Béthune et à amener des promeneurs, des clients potentiels également pour nos commerçants. Troisième projet, c'est finalement un projet lié à la mobilité, comme vous l'avez vu, un projet qui tourne autour de cette fameuse bleue de chez Motobécane, qu'on n'appellera pas ainsi, puisque bien sûr, l'idée, c'est la reconstruire en version électrique, avec un budget limité, complètement fabriqué en France, bien évidemment, et donc qui pourrait demain peut-être être un modèle, de non pas de Vélib, mais peut-être de Mobilib, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler précisément, ce projet s'appelle Atlas en tout cas, et qui va, je pense, faire les beaux jours de Béthune rétro lors de notre festival de vintage, parce que bien évidemment, je pense que vous avez compris le côté nostalgique qui tourne autour de ce design, cette nouvelle mobilette électrique. Et puis le dernier projet, c'est une application co-construite avec les commerçants, qui doit permettre aux commerçants de valoriser et gratuitement auprès de leurs clients, les bons plans, les bonnes offres, toute l'offre de services autour finalement des promeneurs qui viendraient à Béthune. Donc 4 projets qui sont innovants, surtout sur la forme, dont j'entends la complicité qu'on a entre finalement des porteurs de projets et puis une collectivité souvent très en silo avec des gens très geeks, très agiles, qui sont dans une approche complètement disruptive. Bref, c'est assez passionnant, c'est enthousiasmant et ça montre bien que nous avons beaucoup de talent sur notre territoire. On est très fiers finalement de pouvoir démontrer ce soir qu'on a les moyens finalement de ne plus être souvent le Nord avec ses problèmes souvent sociaux dénoncés à la télévision. Non, on est aussi le Nord avec ses projets, ses talents, son avis d'avancer et sa réussite finalement au bout du chemin.
Alors comment avez-vous procédé pour que les personnes qui travaillent justement sur ces 4 projets et entre guillemets les mains libres, parce que c'est aussi un petit peu l'objet du Béthune Lab.
Alors effectivement, nous travaillons avec des conventions, hein, des conventions de recherche et développement liées autour de l'innovation, parce qu'une vraie difficulté, c'est quand une collectivité veut innover, elle est face à la problématique des marchés publics. Tout de suite, on vous dit marché public, etc. Donc vous retombez finalement dans un monde qui est mort, mais qui vous empêche de finalement vous transformer. Donc avant que le législateur ne change les règles, on a trouvé comment, là aussi, contourner la problématique, légalement bien évidemment, à travers ces conventions de R&D, comme on dit, recherche et développement, qui nous permettent de pouvoir rémunérer, en tout cas contribuer à la rémunération de gens qui innovent aujourd'hui. C'est un peu ma façon d'exprimer ce que j'ai dit tout à l'heure, de hacker la société, non pas la craquer, la hacker, c'est-à-dire la faire progresser, la rendre plus libre, plus disponible, plus généreuse, plus bienveillante. Et politiquement, c'est comme ça que je me positionne, bien évidemment.
Alors, vous avez évoqué un projet de cluster. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors un cluster, c'est quoi techniquement ? C'est un lieu physique où on met en synergie et en contact des ressources, à la fois techniques, technologiques, pour pouvoir étudier un projet, le prototyper, éventuellement le mettre en production. Donc c'est un lieu qui va accueillir demain des gens qui auront des idées, qui voudront inventer des choses, rendre des services. Et donc on pourra étudier le projet, le monter avec eux, l'incuber, donc le tester sous forme de couveuse, puis éventuellement le diffuser, le mettre en production. L'histoire de la mobilette, c'est ça. C'est si demain ça marche, pourquoi pas envisager la production de ces mobilettes-là à Béthune ou dans le territoire béthunois. C'est de l'emploi à venir, c'est important qu'on y pense.
Alors, est-ce que vous pouvez rassurer également la population sur l'utilisation des données ?
Ah bien évidemment, il ne s'agit pas pour nous de jouer à Big Brother ou d'observer ce qui se passe droit à gauche chez les gens. Nous allons simplement récupérer des données de mobilité des gens, des données liées à la circulation, des données on va dire liées au prix moyen des habitats, au nombre de transactions à l'année, au nombre de permis de construire, etc., etc. Le marché de l'emploi, comment il se comporte, les compétences attendues, etc. Donc on est sur des grands ensembles, mais qui permettent de donner des enseignements sur le territoire tel qu'il est, comment il est composé, son capital humain, ses forces et faiblesses, mais en aucun cas il s'agit d'individualiser les données. On est bien sur des ensembles et des approches, comme on dit, macro chez nous, hein, donc globales, et donc bien évidemment, l'idée c'est de respecter d'abord, un, la loi, et deux, nous correspondons dans la Smart City à un esprit et une éthique qui fait qu'on s'interdit toute dérive en la matière.
L'idée, c'est aussi pour vous, qui êtes élu du territoire, de connaître plus finement, du coup, la population aussi.
Alors, connaître plus finement la population, oui, je parlerai plutôt de ses usages. Comment elle vit, comment elle se déplace, comment elle consomme, où est-ce qu'elle, comment elle se loge, quelles sont ses difficultés, quelles sont ses réussites, et du coup, comment je peux calibrer, moi, en tant que représentant de ses habitants, comment je peux calibrer les politiques publiques pour qu'elles correspondent au mieux aux attentes des habitants. Ça n'empêche pas la démocratie directe, le dialogue, les réunions traditionnelles, mais on peut aussi imaginer que par des outils numériques ou à travers cette donnée, nous puissions avoir des approches beaucoup plus fines. Et en contrepartie, ça permet aussi aux habitants de bien vérifier que nos politiques publiques sont bien en adéquation avec ce qui est attendu et donc de pouvoir aussi évaluer en retour nos politiques publiques et donc évaluer le politique, non pas par rapport à une étiquette politique, mais par rapport à ce qu'il aura fait ou pas fait.
Ce qui permet pour vous donc du coup d'améliorer la démocratie.
C'est surtout que je crois que ça nous permet, bien sûr, d'être beaucoup plus fins et précis dans nos approches, dans nos politiques, d'apporter celles qui sont attendues, de parfois pas se tromper. Vous savez, les élus, on essaye de faire au mieux. Parfois, on a des certitudes. Moi, je n'ai que des questions que je pose et je cherche des réponses. Quand on est élu de la République, on est surtout représentant de ses habitants. On doit les comprendre chaque jour. Et les attentes, elles évoluent entre deux mandats. On ne doit pas attendre les urnes pour parfois savoir infléchir, changer ou enrichir une politique publique. Voilà, donc c'est comme ça en tout cas que je vis les choses et mon mandat.
Ma station, ma région.
Olivier Gacquer, le maire de Béthune, qui répondait à nos questions. Vous êtes toujours dans Savoir Plus sur Radio Plus et nous parlons de la soirée de l'innovation qui s'est déroulée à Béthune le 27 juin dernier. Simon Cardon, le président de la société ESPM Group et cofondateur de GreenWeb, a lui présenté la toute nouvelle application Béthune Shop, une application censée ramener les Béthunois vers les commerces de proximité. Les explications de Simon Cardon.
Alors on est en train de co-construire avec la ville de Béthune, les commerçants de Béthune et les habitants de Béthune, une application qui a pour but de connecter les habitants consommateurs aux commerçants. Cette application aura pour vocation de proposer justement aux habitants des bons plans, des ventes flash, des bonnes expériences, mais aussi de mettre en avant et en lumière les événements des différents commerçants. Donc on veut vraiment créer une forme de proximité entre les commerçants et entre les habitants et de gérer, en fait, de générer du flux vers le centre-ville pour redynamiser justement le centre-ville.
Comment, avec une application donc concernant uniquement la ville de Béthune, concurrencer les grosses applications Facebook, etc., etc.
Alors justement, le gros avantage qu'on a par rapport à eux, c'est qu'on est déjà à Béthune et qu'on est géolocalisé. C'est-à-dire que c'est une application qui s'appelle Béthune Shop, qui concerne les Béthunois, qui est uniquement pour les Béthunois et on retrouvera tout Béthune dedans. Et ça, Google et Facebook, pour le moment, ne peuvent pas faire ça. Et pareil au niveau de la mise en place de telle application, il faut savoir qu'on est vraiment sur une mise en place qui est, c'est un outil qui est digital, mais le lancement et la mise en place, elle est complètement physique puisqu'on engage les différents commerçants au sein même de la construction et de la mise en avant de cette application.
Alors dans le processus de construction de cette application, est-ce que vous avez eu les mains libres pour justement construire comme vous le souhaitiez votre application, ou est-ce que c'était un fonctionnement très vertical avec des ordres du chef entre guillemets?
Alors c'est ça qui est justement génial dans le fait de gérer ce projet à Béthune, c'est qu'on avait complètement les mains libres. Le maire nous a fait confiance, on lui a donné notre feuille de route qui au final a une finalité, enfin on lui a dit Au final, ce qu'on a vendu un petit peu au départ, c'était qu'on voulait générer du trafic vers les commerçants et créer de la connexion entre les habitants et les commerçants. Et il nous a complètement laissé libre par rapport à la façon de faire. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est ce qui nous permet à aujourd'hui d'expérimenter et d'avancer prototype après prototype, de prendre les feedbacks de l'ensemble des commerçants, des habitants et de mettre en œuvre en fait une solution, une proposition de valeur, une application qui est et qui sera la plus optimisée possible.
Alors à ce jour, combien de commerçants de Béthune sont associés au niveau de l'application ?
Alors à ce jour, il y en a 15. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les mois, on en rajoute 5. Entre 5 et 10. Là, on est au deuxième mois de la co-construction. L'application sortira le 23 septembre sur Béthune. La communication autour de l'application auprès des habitants commencera début septembre. Mais là, tous les mois, on rajoute des nouveaux testeurs, alors des nouveaux commerçants, des nouveaux utilisateurs. On prend leur feedback et ensuite, on apprend par rapport à ça et on améliore et on avance comme ça tous les mois.
Alors visiblement, les commerçants sont intéressés par votre application. Et justement, quelles sont leurs problématiques, les premières problématiques qui remontent au niveau de votre application ?
Alors les premières problématiques qu'on a eues, c'était par rapport à la facilité d'usage. On a voulu faire justement au plus simple. On s'est rendu compte que même si notre version, elle nous paraissait très simple, au final, on avait oublié quelques petits éléments qui permettaient justement de fluidifier les inscriptions et de faire en sorte qu'une inscription prenne moins d'une minute. Alors c'est un aspect extrêmement important parce que les commerçants sont pressés, ils n'ont pas forcément le temps. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que le commerçant puisse optimiser son temps et se dire « Ok, je peux utiliser l'application, je peux m'inscrire, je peux changer mes bons plans ou mettre en place des ventes flash. Ça va juste me prendre une minute et ensuite, c'est tout. Je laisse vivre cette chose. Je laisse vivre l'application et je laisse vivre ce levier d'acquisition de trafic, de clients, etc. »
Alors, vous avez beaucoup insisté sur les données également. Justement, qu'est-ce qu'elles deviennent ces données ?
Alors, au niveau des données, alors, c'est ça qui est assez intéressant par rapport à la phase d'apprentissage et de prototypage, de création de cette application, c'est que on prend ces données, nous on les analyse mois par mois, on les analyse de toutes parts et en fait c'est simplement notre base de travail, c'est-à-dire qu'on crée un référentiel, on se dit tiens, il y a un problème sur telle donnée, elle est trop faible, il faut qu'on travaille dessus. Comment on fait pour améliorer ce taux, par exemple, ce taux de fidélisation des utilisateurs, etc. Donc c'est vraiment la base du travail parce qu'on se sert vraiment de ce référentiel pour ensuite activer de nouvelles versions. On va travailler sur telle et telle optimisation et ensuite le mois qui suit, eh ben, on va vérifier si on a bien travaillé ou si justement il y a encore des choses à optimiser de ce point de vue-là.
Donc si je comprends bien, vous allez sans cesse essayer justement d'optimiser cette application. Il n'y aura pas vraiment de version définitive, il n'y a jamais de version définitive en fait.
Alors en fait, je crois qu'une version définitive, il n'y en aura jamais. Parce que le but du fonctionnement d'une startup, notamment de la méthodologie Lean Startup, c'est vraiment d'avancer et de continuer perpétuellement à optimiser notre service et notre proposition de valeur. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'on a intégré les différents acteurs que sont la mairie, les commerçants, les habitants. Et au fur et à mesure du temps, là on s'est donné jusque le lancement, mais il faut savoir qu'ensuite, l'application va continuer à être tout le temps optimisée, tous les mois, pendant au moins 18 mois, puisqu'on est parti sur une collaboration d'au moins 18 mois.
Alors, vous avez également insisté pas mal sur l'aspect écologique de votre application. Justement, concrètement, comment vous comptez maîtriser ces aspects ?
Cette application, elle travaille autant la forme que le fond, et on voulait surtout y mettre en avant des valeurs qui sont les nôtres, et surtout parler d'écologie digitale, qui est un vrai enjeu à l'heure actuelle. Il faut savoir que quand on envoie un mail aujourd'hui, ça fait à peu près 10 grammes de CO2, et ça correspond simplement à une lumière basse consommation allumée pendant une heure. Donc un mail, c'est une heure d'une ampoule basse consommation allumée, ce qui est juste énorme. Et en fait, on parle rarement de cet aspect immatériel de la pollution. Nous, c'est un de nos combats. C'est pour ça que j'ai créé Green Web, d'ailleurs. C'est pour mettre en avant le fait que Internet, ça pollue et qu'il y a des actions à faire pour le rendre beaucoup plus vert. Donc là, l'application, elle va être beaucoup plus éco-responsable. Elle aura des serveurs qui seront alimentés en énergie renouvelable. Et dans la façon de coder cette application, en fait, on va limiter l'échange de données pour justement économiser de la data et économiser de l'énergie par rapport à tout ça.
Et ces serveurs, ils sont situés à quel endroit ?
Alors pour le moment, ces serveurs sont situés au Canada. Simplement parce qu'en France, ça n'existe pas encore.
Ça, vous le regrettez ?
Je le regrette profondément, mais je pense que ça pourra faire l'objet d'un prochain sujet sur lequel je travaille, notamment avec certaines personnes qui étaient ici ce soir. Je pense qu'il y a tout à faire par rapport aux data centers plus verts en France et en Europe. Et justement, faut travailler en ce sens, faut rendre les choses plus vertes, et notamment à la base. On espère vraiment qu'un jour, on aura ces data centers en France et qu'on pourra les utiliser fièrement.
Très bien, merci beaucoup. Et puis, peut-être rappeler sur quelles plateformes seront disponibles justement cette application.
Alors, l'application sera disponible sur le Play Store et sur Apple Store, donc sur les deux principales plateformes. Il y aura aussi forcément un site internet qui permettra de rediriger plus facilement. Et les commerçants, eux, ont une autre plateforme pour pouvoir gérer l'ensemble de leurs offres et les détails et les informations liées à leur entreprise.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
À l'instant, Simon Cardon, président de SPM Group et cofondateur de GreenWeb, qui nous expliquait les contours de l'application Béthune Shop, présenté lors de la soirée de l'innovation à la fabrique à Béthune le 27 juin dernier. Le dernier projet présenté lors de cette soirée de l'innovation n'est pas des moindres, parvenir à produire intégralement une mobylette électrique dans le Béthunois et que cette mobylette puisse devenir, pourquoi pas, un nouvel outil de mobilité pour les citoyens du territoire. C'est le projet Atlas, créé par Benjamin Surin, entrepreneur arrivé récemment à Béthune.
Donc je suis designer, j'ai 43 ans, j'ai fait mes études à Saint-Luc-Tournay. Par la suite, j'ai travaillé dans des sociétés, des grandes sociétés comme Panasonic, Naos, j'ai pas mal voyagé. Donc Angleterre, Allemagne, où j'ai travaillé pour ces sociétés. Et il y a 10 ans, j'ai eu l'idée de monter ma propre marque, Surin, Electrocycle, qui s'est transformée aujourd'hui en Surin Recherche et Développement et qui s'est installée à Béthune et développe le projet Atlas.
Alors au départ, vous proposiez justement donc des objets uniques, hein, vraiment des cycles destinés à certaines catégories de personnes, on va dire. Là, vous avez complètement changé de registre, vous voulez vous rendre justement utile envers la société, la ville de Béthune notamment. Expliquez-nous un petit peu votre projet.
Donc le projet Atlas, c'est de refaire la mobylette mais de façon électrique. Donc comme vous l'aviez dit, j'avais un background avant, je travaillais beaucoup pour des collectionneurs, des musées, vraiment sous forme de pièces uniques. Et là, c'est vraiment d'être main dans la main avec ma ville, la ville de Béthune, et de promouvoir un projet social de façon, par son utilisation, mais aussi de façon de retombée économique. Donc Atlas, la mobylette électrique que j'ai développée, va faire appel à des compétences locales pour la fabrication, c'est-à-dire pas d'externalisation vers la Chine de fabrication là-bas, tout sera vraiment localement. J'y tiens beaucoup, pour booster l'emploi et aussi pour être plus rapide et diminuer l'empreinte carbone.
Et vous avez collaboré également avec le Fab Lab de Bruy-la-Huissière.
Le Fab Lab de Béthune.
De Béthune aussi, oui.
Voilà, donc ici à Béthune, le Fab Lab, pourquoi ? Parce qu'il y avait aussi des compétences que je n'avais pas. J'ai fait appel à Nabil, qui travaille ici. Lui m'a recruté 3 étudiants qui étaient en mémoire, et on a travaillé sur le fameux problème électronique lié à Atlas, donc c'est-à-dire d'avoir un système universel de démarrage, inviolable et pratique.
Avec donc l'empreinte digitale, du coup ?
Donc une reconnaissance d'empreinte digitale, un peu comme vous avez sur votre smartphone qui reconnaît votre empreinte pour démarrer.
Vous êtes également parti sur les contraintes de production que s'était imposé Motobécane à l'époque.
Oui, donc le cahier de charge de Motobécane, c'était de reprendre l'idée de Motobécane à la base. Avant de concevoir la mobylette, le but était de remettre les gens sur la route. Donc les premières lignes du cahier de charge, c'était la première qui m'avait beaucoup impressionné, c'était que le prix de vente devait être équivalent à 2 SMIC pour que le modèle de base, tout le monde puisse l'offrir et que tout le monde puisse se remettre soit au travail ou d'aller voir la famille, ce qui n'était plus le cas dû à la crise économique qu'on a vécue après la Seconde Guerre mondiale.
Alors certains éléments de votre projet seront customisables et vous avez justement insisté sur le côté open source de votre projet.
Oui, donc dans le côté open source, c'est surtout l'aspect impression 3D, le reste de la machine aussi pourra être évolutif, mais c'est que les gens puissent faire appel à leur créativité, concevoir une pièce, c'est-à-dire un porte-parapluie, un porte-téléphone, un nouveau porte-bagages, un porte-sac, l'inventer eux-mêmes, aller dans un Fab Lab pour concrétiser leur idée et la mettre disponible sur le site internet de Atlas, donc en open source, donc de façon gratuite, afin que d'autres personnes puissent aussi profiter de cette invention et créer un peu cette symbiose entre les utilisateurs et les créateurs.
Alors vous avez proposé ce projet assez récemment, hein, au maire de Béthune. Est-ce que vous pouvez justement nous dire pourquoi vous êtes justement allé voir directement le maire de Béthune pour lui proposer ce projet, et ensuite à quelle date vous espérez pouvoir sortir le premier prototype ?
Donc la rencontre avec le maire de Béthune a d'abord été fortuite. C'était plus une explication de pourquoi j'étais venu m'installer à Béthune, un peu qui j'étais. Il y a tout de suite eu beaucoup d'engouement de la part du maire via Smart City, et de dire que mon projet étant durable, innovant et étant dans la perspective de Béthune, de cet avenir, on va dire technologique mais aussi social, de se revoir, de finaliser la première phase de mon projet et de se revoir 3 mois après, ce que j'ai fait et ce qui m'a permis maintenant d'être intégré dans Smart City et d'avoir l'appui et les compétences de la mairie pour la réalisation de ce concept.
Et donc là, pour le prototype que vous espérez sortir, justement, vous pensez pouvoir le faire à quelle date ?
Donc la date de sortie officielle, on croise les doigts parce que ça va être très rapide, est le 28 août. Il sera présenté lors de Béthune Rétro, donc lors d'une soirée organisée ici de façon, on va dire, un peu plus préparative le vendredi, et le samedi sur la Grande Place au grand public.
Et donc à terme, votre objectif, c'est de pouvoir en produire quel nom ? Est-ce que vous avez déjà cette idée-là en termes de production ? Est-ce que vous imaginez aussi un système type Vélib sur Béthune ? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre tête, ça ?
Alors pour l'instant, toutes ces idées, oui, sont existantes, mais elles sont toujours à l'étude. Je suis lié par des clauses de confidentialité, bien sûr. Donc on veut y aller dans le bon sens, c'est-à-dire d'abord présenter le projet, montrer aux gens tout ce dont cette machine est capable et tout ce qu'ils vont pouvoir faire avec. Et ne vous inquiétez pas, par la suite, on a beaucoup de nouvelles idées avec d'autres personnes que je rencontre tous les jours qui viennent s'associer. C'est ce que je cherchais, c'est cet aspect collaboratif pour la production, pour vraiment la mise en œuvre. Donc chaque chose en son temps, vous pouvez suivre notre story et voir un peu comment ça évolue.
Alors justement, pour vous suivre, comment fait-on ?
Vous pouvez nous suivre sur Facebook, donc Surin, S-U-R-A-I-N. Normalement, je dois apparaître dans les premiers, donc vous cherchez un logo avec des ailes, ça sera celui-là. Et sur Instagram, Surin, S-U-R-A-I-N.eu. Et sur Instagram sont généralement publiées des vidéos live et généralement vraiment notre actualité. Et d'ici un mois, notre site, donc www.surin.eu, sera mis en ligne, où là vous aurez encore plus d'informations, vous inscrire à une newsletter et suivre toujours notre story.
Merci beaucoup Benjamin Surin d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Benjamin Surin, donc, qui présentait le projet Atlas lors de cette soirée de l'innovation qui s'est déroulée, je vous le rappelle, à Béthune, à la fabrique, le 27 juin dernier. Vous êtes toujours dans l'émission Savoir Plus jusque 11h55. Alors, précisons qu'une autre application Béthune 360 a été présentée lors de cette soirée de l'innovation. Une application particulière puisqu'elle permet de mettre en valeur le patrimoine caché auquel vous ne pouvez pas avoir accès physiquement, et vous pouvez vous balader dans ce patrimoine caché à l'aide d'un casque virtuel que vous pouvez fabriquer vous-même. Démonstration assez impressionnante qui a donc été effectuée lors de cette soirée de l'innovation. Et puis enfin, la ville de Béthune et son partenaire Orange ont présenté le portail Open Data de la ville de Béthune que tout un chacun peut consulter en passant par le site internet de la ville de Béthune, le www.béthune.fr, hein, comme l'expliquait le maire de Béthune, Olivier Gacquer, tout à l'heure, au début de cette partie de l'émission. On apprend par exemple sur ce portail Open Data qu'il y a actuellement 30 établissements scolaires et crèches, collèges et lycées à enseignement supérieur à Béthune, que le prix médian du logement à Béthune pour acquérir un bien est de 1 240 € par mètre carré, ou encore que la consommation moyenne pour un appartement de 76 mètres carrés à Béthune est de 324 kWh par mètre carré par an, soit un classement E dans le diagnostic de performance énergétique, ce qui prouve qu'il y a encore pas mal d'améliorations à effectuer sur ce sujet. On fait une courte pause musicale avec Brigitte Bardot et sa Harley Davidson.
« Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin.
Climb so high, I never wanna die. Born
Steppenwolf à l'instant sur Radio Plus avec Born to be Wild, bah de quoi illustrer bien évidemment les balades en moto, hein, voilà, en Harley, tout ça, etc. Voilà, hein, et puis bah, tout simplement tout ce qui est évidemment trajet comme ça, voilà, en plein été sur les routes. Petit clin d'œil à Benjamin Surin qui évoquait Béthune Rétro tout à l'heure avec donc son projet Atlas, hein, je vous rappelle son projet de mobylette électrique qui sera donc présenté à Béthune Rétro. Alors sachez que la 16e édition de Béthune Rétro aura lieu du 24 au 26 août prochain. Et on poursuit donc avec l'actualité départementale, le département du Pas-de-Calais qui organise 3 concerts gratuits pour vous pour cet été. Le premier a lieu pas plus tard que demain à Bruay-la-Buissière où Chaim sera en concert sur l'aire de loisirs de la Volville à partir de 19h30. L'occasion de découvrir son nouvel album Agapé aux sonorités urbaines sorti en avril dernier. Autre concert qui aura lieu, c'est celui de Daisy, le duo pop urbaine qui se produira en première partie, donc de Chaim, et qui vous présentera eh bien leur musique. Et eh bien voilà, ce sera donc demain, ça a brûlé la buissière. On vous signale également le festival Rock en Stock, hein, le 2 août prochain, où le département organise également dans ce cadre son deuxième concert gratuit de l'été avec Synapson qui seront donc présents avec leur tube, hein, Holy New Fireball ou encore John Mayamai. Et enfin, le dernier concert organisé par le département, ce sera à Dèvres le 10 août prochain avec Divaphone. Voilà, donc c'est un duo, un pop folk électro que vous avez certainement déjà entendu, hein, sur Radio Plus avec Gail Up ou encore Shine In On My Way. Voilà concernant eh bien les concerts gratuits du département cet été. Et je vous rappelle également que le département a lancé un appel à projet pour l'année 2019, pour la saison 2019-2020, concernant le centenaire de la convention franco-polonaise. Voilà, donc concernant eh bien cet appel à projet qu'il faut eh bien effectuer avant le 15 septembre prochain. Hein, il faut évidemment pouvoir remettre votre dossier avant le 15 septembre prochain. Alors, qui peut candidater ? Eh bien, des collectivités, mais aussi des associations ou des établissements d'enseignement supérieur, avec donc des thématiques générales, hein, qui vous sont proposées en lien avec les événements majeurs qui ont marqué la présence des Polonais dans notre département. Les grandes phases de l'immigration polonaise, bien évidemment, dans le Pas-de-Calais, le travail industriel et les travailleurs agricoles qui étaient présents d'origine polonaise dans le département, les personnalités et talents issus de l'immigration polonaise, et également d'autres domaines comme le sport, la culture ou encore les loisirs. Voilà, si vous souhaitez candidater, eh bien, je vous rappelle, il y a 2 dates, hein, le 15 septembre pour une réalisation en 2019 et le 15 novembre prochain pour une réalisation en 2020, et vous pouvez pour cela contacter Marina Herman aux archives départementales du Pas-de-Calais. Voilà, c'est la fin de votre émission Savoir Plus. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le Flash Info, suivi de votre programme accordéon, les routes de l'accordéon, à partir de 12h15 sur Radio Plus. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute du 104.